Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parler Temps qui court, tous les soirs un ou une artiste pendant une heure, ce soir Leslie Kaplan.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es
ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux avec Leslie Kaplan.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Quand j'écrivais « Louise, elle est folle », j'avais souvent en tête le mot « renversement », le désir et le plaisir qui vont avec. Les cubes de l'enfance, mais aussi, toujours l'enfance, Chaplin, dans son avion piloté à l'envers, il regarde en bas, c'est justement en haut. Le whisky sort de la bouteille et monte au lieu de descendre, on a le temps, tout le temps, de faire le tour de la situation dans tous ses détails. Le ciel, la terre, en haut, en bas, l'avion minuscule, deux hommes dedans, le pilote évanoui, l'autre qui se débrouille, essaye. Ou encore, changement de registre, autre renversement, des questions. Tous les écoliers de France les ont apprises par cœur. Ce sont les questions de l'ABCIS. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout? Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien? Que demande-t-il? À y devenir quelque chose. Leslie Kaplan, bonsoir. Je viens de lire un extrait de Renversement, paru après Louise elle est folle aux éditions POL. C'est un texte qui a été créé pour la scène avec Élise Vigier et Frédéric Lollier. Et vous êtes aussi là avec nous ce soir pour la parution du texte Désordre aux éditions POL. Ce mot renversement qui arrive donc après Louise elle est folle comme sorte de regard sur le texte que vous avez écrit. Finalement, c'est un mot qui est là très souvent, on peut dire très souvent dans tout ce que vous écrivez, du renversement du langage au renversement des êtres, à la manière dont les choses, d'un coup ou moins d'un coup, basculent, les Leslie Kaplan.
Mais je pense qu'en effet, le renversement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et il y a toutes sortes de renversements. Il y a des renversements dans la société, bien sûr, bon... Par exemple, on passe de l'ancien régime au temps moderne, bon. Et il y a aussi des renversements tout à fait, disons, intimes. Par exemple, ce qui se passe ou qui peut se passer dans la vie courante ou dans une psychanalyse. Par exemple, une phrase dite comme « c'est peut-être le contraire de ce qu'on pense, le contraire de ce qui se fait », ça peut... justement, avoir un effet renversant.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un lien entre le renversement et ce qu'on appelle la révolution ?
Ah, certainement, certainement. C'est-à-dire, on peut avoir le sentiment, justement, dans une période, mettons, pré-révolutionnaire, que le monde marche sur la tête, que le monde se déroule à l'envers, d'une certaine façon, et on peut se dire que ce serait bien de le remettre à l'endroit. Bon, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, je ne sais pas si ça a été dit exactement comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver, oui. Et ça peut précéder des renversements réels des institutions, donc des révolutions.
Quand on dit « le monde marche à l'envers », qui est une phrase qui est à la fois lourde de sens et en même temps qui peut être comme ça, employée dans un café, à la va-vite, le matin, je sais pas, même quand il pleut alors qu'on avait envie qu'il fasse beau, on dit quoi ? On dit que les valeurs auxquelles on pensait croire ou qu'on pensait solides ne sont pas autant. On dit quoi quand on dit « le monde marche à l'envers » ?
Là, en fait, je pensais à comment on peut, parce que je pensais, disons, à ce que j'avais écrit là, en général, comment les mots qu'on utilise couramment dans la société peuvent sembler tout d'un coup, ou pas forcément exactement tout d'un coup, absolument faux. et justement à l'envers. Et on peut se dire, mais ça va pas, ce sont des clichés, des choses fausses, et avoir envie qu'on on remette les choses au point et que les mots décrivent réellement les choses.
Est-ce que vous avez un exemple en tête, par exemple?
En fait, bien sûr. Je pensais à mon dernier texte qui est publié, là, que vous avez cité, Désordre, où tout de même ce qui a été le moteur pour moi de l'écriture, c'était le sentiment qu'on parlait partout de violence, de violence, de violence, et que la première des violences, c'est-à-dire les violences policières, justement, on en parlait beaucoup moins. C'est-à-dire, la question donc apparaissait, d'où venait la violence? Est-ce qu'elle venait, comme on semblait le dire, d'en bas, ou est-ce qu'elle venait plutôt, ce que je pensais, d'en haut, hein, à la fois de l'état général de la société, qui est une société violente, et des forces dites de l'ordre, etc.
Ça crée quoi dans l'existence des êtres, avant de parler même de l'existence sociale, l'existence collective, quand les mots ne veulent plus exactement dire ce qu'ils veulent dire? Est-ce que ça crée justement le titre de votre livre, c'est-à-dire une forme de désordre?
Oui, je pense que, d'abord, bien sûr, ça crée du désordre d'abord dans la tête, dans la tête par exemple des enfants, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont on leur parle, ne va pas, c'est pas au sens de il faudrait que ce soit rigoureux, etc., mais qui est réellement, disons, un mensonge ou un non-dit ou un secret, etc., ça peut avoir des conséquences très très graves, ça c'est sûr. Donc du désordre dans la tête, mais aussi ensuite, bien sûr, du désordre dans les comportements sociaux, etc. Oui.
Vous l'avez écrit en combien de temps, ce texte Désordre ?
En fait, assez vite. Il n'était d'ailleurs pas prévu. Et tout d'un coup, là, en février, je me suis dit non, ça, j'ai eu envie de l'écrire et je l'ai écrit. Et il a été publié très très vite.
Ça vous arrive souvent d'écrire comme ça, dans une forme d'urgence, Leslie Kaplan ?
Peut-être pas exactement comme ça. Dans l'urgence, d'une certaine façon, oui, depuis toujours. Je dirais même depuis le début. Même si c'est venu, par exemple, mon premier livre sur l'usine, l'excès de l'usine, c'est venu 10 ans après avoir travaillé en usine. Mais c'était tout d'un coup un sentiment d'urgence. Il fallait que ce soit fait. Vraiment. Alors ça, oui.
Donc c'est une urgence différente, celle de se mettre à écrire vite, que celle, qui peuvent se rejoindre, que celle d'avoir urgence à dire ou à publier quelque chose.
Oui, tout à fait, oui.
Là, les deux se rejoignaient.
Voilà.
Urgence à dire et urgence de le faire.
Voilà.
La liste s'allongeait. Fin mars, les médias commençaient à signaler une récurrence. En avril, c'était sûr, il se passait quelque chose. Mais quoi ? Certains essayaient de faire une typologie. Un essayiste écrivit un article bien tourné, il rebondissait de crime en crime et montrait qu'il y avait bien, en effet, un aspect qu'on retrouvait à chaque fois, le caractère de classe, il fallait bien utiliser ce mot. Ou un refus, on pouvait l'affirmer, de la domination. Il parla d'agressivité impitoyable. La formule pourtant bien connue, qui soulignait l'absence totale de culpabilité, fit choc. Aucune revendication bien claire, mais une ressemblance qui était dans le ton, si l'on pouvait dire, des assassinats, la manière, bref, le style. Le style ? Quand le mot fut utilisé, il y eut une levée de boucliers. Comment pouvait-on parler de style ? Quelle décadence, vraiment un côté de fin de civilisation et pourtant ? Aucun doute. Il ne s'agissait pas de l'appât du gain, il n'y avait aucun gain. Et évidemment, il ne s'agissait pas non plus de crimes passionnels, au contraire. L'assassin resta dans un rapport à la fois proche et lointain avec la victime. Il était concerné, sans doute, mais pas tout à fait impliqué. Il gardait une distance. Et la typologie devait non seulement tenir compte de la forme des crimes, mais aussi cerner leur motivation. D'où cette fameuse appellation de crime du 19e siècle qui semblait si juste. Bref, on ne savait pas quoi penser. Leslie Kaplan, je lis un extrait de Désordre publié chez POL et on est un peu avancé dans le texte, bref, mais on est déjà un peu avancé. Et le constat est fait que des crimes successifs arrivent et que on ne sait peut-être pas quoi penser, mais qu'on est en mesure de petit à petit les relier, ces crimes qualifiés du 19e siècle. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de cette fiction et de cette succession de descriptions de crimes?
Ben justement, c'était une sorte de désir de renversement, puisque et de prendre les choses finalement une façon de renverser ce qui se disait sur le mouvement en particulier des Gilets jaunes, hein, sur la violence, c'était de prendre les mots au pied de la lettre et de dire bon ben voilà, s'ils sont violents, allons-y carrément, faisons comme si la société entière, évidemment c'est une fiction, était traversée de crimes, de petits crimes, chacun dans son coin, et quand même reliée d'une certaine façon par une même connotation de classe. C'est-à-dire, on peut dire, d'une certaine façon, c'était des sortes de crimes de classe, puisque à chaque fois, il s'agissait, c'est dit, de quelqu'un qui était exploité, opprimé, et qui tuait soit un patron, soit un quelqu'un qui était en position de maîtrise, de domination, etc. Bon, et c'est ça vraiment l'idée. Alors l'idée du 19e siècle, c'est venu comme ça, c'est disons une espèce d'imaginaire, d'ailleurs le mot est dit aussi, où l'évidence de la lutte des classes apparaissait, alors que, et là aussi c'est aussi un peu quand même imaginaire, maintenant tout de même c'est plutôt recouvert, on n'en parle pas tellement. Mais les choses existent.
D'ailleurs, vous utilisez justement cet imaginaire de classe pour essayer, avec les commentateurs de la société que vous décrivez, Leslie Kaplan, d'expliquer ces crimes, tout en disant en effet que c'est recouvert et qu'il y a peine à penser les choses dans ces dimensions-là. C'est aussi quelque chose que vous constatez autour de vous, que la pensée de classe est une pensée qui diminue.
Ben oui, d'ailleurs, une chose qui est dite, c'est tout le monde dit « Ah oui, mais il y a un crime, mais oh là, c'est pas politique. » Donc la phrase « ce n'est pas politique » revient comme une sorte de leitmotiv, comme si on avait peur de penser qu'est-ce que c'est le politique dans toutes ses dimensions. Parce que évidemment, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est uniquement la représentativité ? Est-ce qu'il y a d'autres formes de dimension politique aux choses ? Qu'est-ce qui est politique ?
Et qu'est-ce qu'on fait quand on dit que ce n'est pas politique? Puisqu'on disait tout à l'heure que les mots ont une action, notamment sur les êtres. En vous écoutant, je pense à une partie des commentaires produits au moment de ce qu'on a appelé les émeutes des banlieues en 2005, et où on disait beaucoup, ce sont des émeutes, certes, mais il n'y a pas de revendication politique.
Bien sûr, c'est absurde. C'est absurde parce que, évidemment, une dimension politique, à mon avis, c'est même l'isoler. Je crois que c'est vraiment compliqué parce que, elle est partout. N'importe quel être humain est complètement traversé par la question politique. Elle n'est pas à côté, elle n'est pas en plus. Elle est là. C'est-à-dire que si dans les émeutes, les conditions de vie dans les quartiers, plus ou moins ghettoisés ou pas, mais tout de même insupportables, le fait de se battre contre ça d'une façon ou d'une autre, évidemment que ça remet en cause la question de comment sont traités dans la cité un certain nombre de quartiers, d'endroits, de personnes, etc.
Alors qu'est-ce qu'on fait quand on dit de quelqu'un, quand on dit d'une action, quand on dit d'un mouvement qu'il n'est pas politique ?
Je pense qu'on est dans le déni et on essaye de reléguer ça dans une sorte de marge ou d'extériorité on essaye surtout de se voiler la face, je crois.
Pour n'avoir pas à le traiter politiquement, par exemple ?
Oui. Pour n'avoir pas à se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'être citoyen. Le mot liberté, par exemple, c'est évident qu'il n'a pas le même sens et la même valeur ou la même valence pour tout le monde en ce moment dans la société française.
Je dois avouer qu'il y a un caractère jouissif à lire la description de ces crimes, aussi parce qu'ils se répètent, aussi parce qu'il y a une jouissance de la langue. Je sais pas, c'est drôle, quoi. C'est peut-être cruel de dire ça, c'est peut-être pas,
pas permis, mais c'est assez drôle de voir tous ces crimes qui s'enchaînent et que vous décrivez, Leslie Caplon. Est-ce que ça a fait partie de votre plaisir d'écriture ou est-ce qu'il y a dans ce texte un unique cri de colère et dans ce cas, mon plaisir est malvenu?
Oh, pas du tout. Je pense que le plaisir est absolument bienvenu. D'ailleurs, je dois dire que même si j'étais très en colère, j'ai eu énormément de plaisir à écrire ce texte. C'est-à-dire, c'est quand même un plaisir d'imaginer toutes sortes de petits crimes, plus ou moins isolés, mais justement avec un sens qui revenait. Et ça quand même, l'agressivité et la violence, on peut tout à fait la reconnaître.
On est non-violente et pacifiste comme moi, par exemple, mon plaisir était un peu coupable quand même de voir s'enchaîner les crimes sous votre plume, Leslie Caplon.
Bon, d'abord et d'une, il faut quand même bien rappeler que quand c'est écrit, ce n'est pas commis. Bon, c'est-à-dire que tout de même, la littérature, la fiction, et on se bat d'ailleurs pour ça, ce n'est pas la même chose que l'acte. Et on est dans une société, contrairement à certaines, où il n'est pas interdit d'écrire, il n'est pas interdit d'imaginer, et au contraire, tout est possible. Et je dirais même, il est possible de tout penser. Il n'y a pas d'interdit de penser. Ça, je crois que c'est absolument fondamental. Bon, après, il est tout à fait interdit de commettre de tels crimes, petits ou grands. Mais bon, voilà. Et le rire, évidemment, se situe dans cet écart.
De la transgression, précisément, puisque vous dites « on se bat pour ça ». Elle se situe où pour vous la bataille en ce moment, Leslie Caplon ? Sur ce terrain-là ?
Non, sur ce terrain-là, je pense que pour le moment, il n'est pas interdit ni de penser, ni d'écrire, ni de publier en France. Bon, là, je pensais à des choses qui ont existé dans d'autres pays et pour lesquelles on a pu, en effet, être mobilisés. Bon, la bataille, là, pour moi, elle se situe dans, expliciter qu'est-ce que les mots veulent dire. Il me semble que c'est toujours, après tout, le travail d'un écrivain. Tenant compte de l'expérience qu'on a et de la pensée de l'expérience qu'on a. Alors justement, les mots comme violence, crime, agression, liberté, destruction, qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Enfin, ça veut dire des tas de choses et il faut les penser.
La confrontation entre à quoi s'attend-on, qui est de l'ordre de l'informulé, qui est de l'ordre de l'espoir, qui est qui prend en soi-même toujours qui devient emphatique dès qu'on est en soi-même, dès qu'on est dès qu'on pense quelque chose, les choses vont changer, etc. Ça devient Et quand vous le confrontez à la réalité, évidemment, vous redescendez sur terre. Mais cette redescente sur terre, moi, je la trouve toujours plus passionnante que ce que je pourrais moi imaginer tout seul. Et c'est pour ça que je me situe assez peu dans le monde des idées. Parce qu'il me manque la confrontation avec la réalité. Et les idées, c'est extrêmement facile. Tout le monde peut en avoir. Chacun a son idée sur les gilets jaunes. Et pour moi, c'est ce qui était intéressant dans ce texte, c'était d'intégrer mes idées comme un élément du récit et non pas que le récit soit au service des idées. La Révolution française fonctionne avec Montesquieu, Rousseau et des textes qui sont de l'ordre des idées. Mais elle fonctionne aussi avec des récits. Et par exemple, le Candide de Voltaire. Je sais que j'ai pensé au Candide de Voltaire. Pour une raison assez simple, c'est que nous vivons dans un monde que nous avons tendance à considérer comme réel, alors que pour moi c'est de l'ordre de la fiction. C'est un récit. Le capitalisme est un récit, avec ses dogmes, ses mythes, ses légendes, ses héros. Et pour contester ce récit, on ne peut pas juste se contenter de déconstruire ce récit, il faut aussi lui opposer des fictions. Et c'est pour ça que la littérature a son importance à jouer.
C'est la voix de Grégoire Bouillet au micro d'Olivia Gesbert. Tout récemment, en avril 2019, dans la grande table sur France Culture, Leslie Caplon opposait des récits aux récits que sont, par exemple, le capitalisme avec ses héros. On a envie de poser la question face à un récit si fort que celui-ci, que peuvent les récits produits, vigoureux certes, par poètes et autrices et auteurs, Leslie Caplon.
Le récit du capitalisme, sa force aussi, c'est qu'il est installé. Bon, il est là. Bon, mais bon, moi, je crois qu'il est contesté de mille et une façons par des récits qui sont pas forcément des récits d'ensemble, mais qui visent tout de même à chaque fois des points et qui mettent en avant des détails et qui montrent que le récit fait du capitalisme est un récit, eh bien, en effet, imaginaire et qui ne recouvre pas du tout la réalité. Bon, ni toute la réalité, ni même, souvent, il la fausse complètement. Mais ça, je pense que, oui, le rôle de la littérature et l'envie de la littérature, le désir d'écrire, en effet, c'est certainement contre tout ça.
Oui. Mais quand je parle en termes de pouvoir, ou plutôt de puissance et de potentialité, je pense à des choses hyper concrètes, à savoir combien de romans se vendent en librairie, combien de livres de poésie se vendent en librairie, il y a combien de personnes dans une assemblée pour écouter des récits qui vont... attaquer à des tout petits endroits, mais importants, le grand récit du capitalisme. Je parle en quantité, peut-être n'ai-je pas raison, mais je suis obligée de la poser, cette question-là.
Bah, écoutez, il faut sûrement la poser, mais moi, j'aurais tendance à dire que au fond, les grandes choses ont toujours été déconstruites et refusées et combattues par, en effet, des petits groupes. Ça a commencé souvent très petit, puis bon, ça prend ou non de l'ampleur, ça correspond ou non à quelque chose qui peut s'élargir. Voilà, c'est-à-dire, on ne peut que, de toute façon, contempler le grand récit et ne rien faire, bien entendu, ne sert à rien. Et il faut commencer par un côté.
C'est quelque chose dans quoi vous avez jamais fini de croire, Leslie Kaplan? Ça a toujours été une certitude ou une mise en route ou un désir, pour reprendre votre mot?
Mais oui, parce que il me semble que quand on écrit son expérience. On écrit à partir de son expérience et on écrit à partir de ce qu'on a vécu et de comment on l'a pensé. Et mon expérience est tout de même celle-là. Depuis, après tout, quand j'ai commencé, c'était sur l'usine, mais aussi sur la grève de 68, puisque j'ai eu la chance de vivre une occupation d'usine en mai-juin 68. Et donc c'est quelque part, c'était bon, oui, ça a continué.
D'ailleurs, si on pense à tous ces textes-là depuis l'Excel-usine ou ces textes que vous avez pu écrire ensuite sur mai 68 de manière plus directe, Leslie Kaplan, il y a toujours question du langage. Je disais tout à l'heure, il y avait une sorte de constante qui avait à voir avec le renversement ou la révolution, y compris dans un texte comme un grand roman comme Le Psychanalyste. Mais il y a toujours question du langage, comme si c'était votre première action.
Mais oui, je crois que tout de même, c'est à quoi j'ai affaire d'abord, c'est-à-dire comme n'importe quel écrivain, aux mots, et au sens des mots. Est-ce que c'est des mots pleins? Est-ce que c'est des mots creux? Est-ce que c'est un vrai dialogue? Est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est du semblant? Bon, tout ça, ça fait vraiment partie de la matière qui est la matière première. Bon, et ça, je crois que c'est évidemment, par où je commence. Et c'est aussi sur quoi il me semble que je peux agir. Bon.
Ça veut dire que vous êtes particulièrement à l'écoute du langage qui s'utilise, creux ou plein, à la radio, à la télévision, dans la rue.
Oui. Oui, enfin forcément. Enfin, c'est-à-dire, oui, c'est certainement des choses qui me frappent. Bon, oui. Je sais pas. Bon, par exemple, oui, là, tout d'un coup, je pense à la phrase. Bien connu du président Macron, qu'il vienne me chercher au moment de la.
Et c'est une phrase. De l'affaire Benalla.
Oui, de l'affaire Benalla. Mais c'est une phrase tellement énorme dans toutes ses implications, je dirais tout de même négatives. Par exemple, ça c'est une phrase que c'est très intéressant de réfléchir dessus.
Et alors, si on réfléchit un peu, qu'est-ce qu'on y entend dans cette phrase-là du président de la République, qui vienne me chercher?
Bon, tout de même, c'est une phrase très violente, c'est une phrase de refus, c'est une phrase de rejeté, etc., etc. C'est-à-dire que c'est quand même une phrase, justement, qui pose la question, je trouve, de la violence. Bon, reprise d'une certaine façon, probablement d'ailleurs quasiment inconsciente, parce que ça lui semblait naturel de dire ça comme ça.
Il y a une autre phrase qui a été souvent commentée et répétée, qui est celle de la description des personnes traversant les gares, et qui, dans la voix d'Emmanuel Macron, dit « ceux qui ne sont rien ». C'est aussi une phrase que vous avez relevée, Leslie Caplan, et qui vous a dit quoi ?
Bah, écoutez, oui, c'est aussi une phrase que, il n'y a qu'à, comme il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Bon, c'est des phrases qui ferment tout. Donc c'est des phrases qui sont vraiment absolument contraires au dialogue. Alors même si c'est dit dans un contexte où on prétend dialoguer, si on dit quelque chose comme « après tout, pour trouver du travail, il n'y a qu'à s'acheter un beau costume ou traverser la rue », eh bien c'est en fait qu'on veut rien entendre d'autre, c'est-à-dire que c'est fermé. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui me choque, qui me paraît absolument contraire à l'éthique minimale.
Et certains vont pouvoir répondre, oh, ce ne sont que des mots, après tout, ça passe, ça se dit un peu vite, finalement, quel impact ça a, alors que, par ailleurs, on agit, on met des sous ici, on fait ceci, on fait cela. Vous dites, Leslie Caplan, non, ce ne sont pas que des mots. Ces mots-là ont une action sur le corps social.
Ah, mais certainement, je pense que c'est, d'ailleurs, je pense que la question de dire, ce ne sont que des mots, c'est vraiment une chose qu'on, ça, pour moi, est littéralement dépourvu de sens, parce que les mots, c'est vraiment la base de tout. Bon, on est tout de même des êtres parlants, voilà, c'est comme ça. Parlants, et donc c'est aussi pour ça qu'on est des êtres politiques. Bon, on remonte à l'origine de l'origine. Bon.
Ça vaut le coup de le rappeler.
Oui, absolument. Bon. Et donc, ce sont des mots. Les mots ont toujours un impact, y compris, ils peuvent être blessants, ils peuvent être méprisants, ou ils peuvent être au contraire absolument formidables et enthousiasmants. Regardez justement la Révolution française, qui commence quand même beaucoup avec des mots. Bon. Et des mots qui ne sont pas n'importe lesquels, mais qui sont très importants.
C'est marrant parce qu'on parlait à votre place avec Joël Pommerat de justement sa mise en scène de Ça ira et la manière dont dire en effet nous sommes l'Assemblée nationale était une action en soi. Est-ce que vous avez connu de votre vivant une période où les mots vous ont mis précisément dans un mouvement ouvert, Leslie Caplan? Vous dites finalement ces mots du président de la République sont des choses qui ferment. Avez-vous, vous, connu des moments où entendant des paroles politiques, vous vous êtes dit waouh, l'existence, c'est vraiment incroyable?
Oui, mais ça, c'est sûr que oui. Eh bien, par exemple, justement, en 68, des mots très petits, des mots du genre bon, ben, on ferme les grilles. Bon, c'est pas rien. Bon. Et des mots comme on veut telle chose ou telle autre. Mais c'était énorme, bon, de dire des petits mots comme ça, mais c'était absolument énorme. On arrête de travailler, bon, la chaîne ne va plus avancer. Et ça, c'est une chose qui, alors, il y a des différences et des différences, mais qu'on retrouve, je pense, dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est des vraiment, même si c'est pas du tout le même genre de contexte, etc., c'est tout de même l'importance de paroles et de mots qui ouvrent. Bon, on ne cédera rien, on veut rester unis, on n'est plus isolés, et puis ça c'est vraiment très important, des gens qui se sont retrouvés en lien avec d'autres, c'est vraiment formidable, mais qui l'ont formulé aussi là dans des mots, et qui ont, ces mots ont répercuté. Et aussi, bon, les revendications, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose, la parole, justement, qui circule, qui ouvre, qui n'a pas peur de dire des tas de choses, de dire même, on peut se dire n'importe quoi parfois. Eh bien non, voilà, on le dit, il n'y a pas de hiérarchie de l'extérieur.
Ça a lieu dans la rue en ce moment, pour vous, par exemple?
Ben, ça a eu lieu quand même, oui, ça a eu lieu, dans, je pense, depuis le début, dans le mouvement des Gilets jaunes, certainement. Et enfin, moi, je l'ai vu à l'Assemblée où je suis allée à Commercy, mais je pense que dans les manifestations aussi, il y a toutes sortes de paroles petites, certaines avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, et certaines qui sont visiblement des ouvertures.
Mutualisons nos infrastructures afin de développer des synergies. La main invisible du marché dans une optique gagnant-gagnant maximalisera nos performances au sommet de la vague d'un Kondratiev. Nous rentabiliserons avec efficacité grâce au souffle de la libre entreprise de façon décomplexée. Nous réussirons à surmonter les résistances corporatistes d'un autre âge au service de certaines castes.
Tu m'as trahi.
Quoi ? Quoi ? Je t'ai trahi ?
Parfaitement. Tu m'as trahi. Parfaitement.
Comment ça ?
Tu m'as trahi. Tu as pris mes mots. Tu les as tournés. Tu les as retournés. Tu les as vidés. Tu les as aplatis.
Mais quoi ? Quels mots ?
Tous mes mots. Les mots que je t'ai donnés. Tu en as fait une bouillie. Tu as pris mes mots. Tu en as fait je ne sais quoi. Tu en as fait des phrases. Du discours. Du blablabla.
Mais quels mots ? Les mots sont à tout le monde.
Tu as pris mes mots à moi. Mes mots.
Tes mots ? Tes mots à toi ? Tes secrets ? J'ai pris tes secrets ?
Tu as pris mes mots. Tous les mots. Tous mes mots. Tout ce que je t'ai donné. Tu l'as pris. Tu as trahi ma confiance.
Mais de quoi tu parles ?
Je te parle de parler. Voilà de quoi je te parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Je te parle, et ce que je dis, tu ne l'entends pas.
Je ne l'entends pas ou je ne le comprends pas ?
Tu ne l'entends pas. Tu ne le comprends pas. Tu es à côté.
À côté ? À côté, comment ça ?
Mes mots, tu les prends, tu les utilises, tu les déformes, tu les donnes à d'autres. Tu les fais circuler sans me demander.
Par exemple ?
Non, non, non. Pas d'exemple. Tu entasses mes mots, tu les ridiculises, tu les tords.
Je ne comprends pas.
Je te dis, tu vois ? Et tu me demandes, qu'est-ce que je dois voir ?
Tu m'as dit, tu vois ?
Je te dis, tu vois, c'est clair, tu vois, tu entends.
Qu'est-ce que tu dis, je ne comprends pas ?
Tu vois, tu entends, c'est simple.
Voir, entendre, c'est pas pareil. Tu dis n'importe quoi. Leslie Caplan, avec Romain de Bègue-Lièvre, on lit un extrait de Louise, elle est folle, qui est paru donc chez POL et qui est aussi sur la scène en ce moment, en tout cas du 16 au 18 mai, de la MAC de Créteil, dans une mise en jeu d'Élise Vigier et Frédéric Lollier. Aussi parce que finalement, cette question du dialogue impossible, de la reprise des mots, de la transformation des mots, est un lien avec tout ce qu'on pouvait dire précédemment, et avec la chanson qu'on entendait, La main invisible, où on entendait une sorte de gloubi-boulga de langage managérial, de réforme d'entreprise, où on a lieu de penser que c'est aussi un endroit du renversement du langage, c'est aussi un endroit de la transformation du langage qui fait que, en effet, tu dis n'importe quoi.
Mmh. Oui.
Peut-être vous pouvez nous parler de ce texte-là, Louise, elle est folle ?
Oui. Ce texte parle de ce que c'est que parler, justement, de ce que sont les mots, et en fait commence avec « tu m'as trahi », bon, c'est-à-dire comment les mots, apparemment dans un dialogue, peuvent être détournés, tout ce qui est dit, changé, on peut ne pas entendre du tout, faire semblant de ne pas entendre, au choix, etc. Bon, et en fait la question c'est vraiment comment parler suppose toujours qu'il y ait quelqu'un à qui on s'adresse et dont on tient compte, vraiment. Bon. Et bon, après, la pièce se déroule et, disons, on peut dire prend avec la question du langage tout ce qui concerne la société actuelle, la société de consommation, la société néolibérale. Et d'ailleurs, se termine exactement, comme vous avez pointé, avec l'une des deux protagonistes qui adopte un langage managérial. Bon, ce qu'il faut faire bon, dans la société actuelle, et l'autre, pour contester, n'a que un développement sur les ciels, bon, c'est-à-dire quelque chose d'idéal, et les deux sont dans une espèce de face-à-face qui finira par une apocalypse. Bon. Bon, mais donc, en fait, c'est vrai, la question des mots est vraiment centrale dans le texte.
Est-ce que vous dites, Leslie Caplan, en disant ça, qu'un des problèmes, c'est la suppression des interlocuteurs? C'est le fait qu'en fait, très souvent, de plus en plus souvent, il n'y a personne à qui parler.
Ah mais tout à fait. C'est-à-dire, on s'adresse, on est souvent renvoyé plutôt à des clics, à des claques, des non-réponses à des personnes réelles. Enfin, il n'y a pas de dialogue. Mais ça, c'est vraiment la question de l'isolement et de la solitude dans ce monde pourtant apparemment si plein d'abondance, etc. Enfin, oui.
En lisant le début de Louise et les Folles et en l'entendant porté par les deux comédiennes, j'ai aussi pensé à la publicité, au langage et la communication, et je me suis dit, le « tu m'as trahi » avec un « e » à la fin peut aussi s'adresser à ce langage publicitaire qui reprend les mots, qui les aplatit, qui les transforme et qui les recrache, si bien que des mots comme « liberté », comme « joie », comme « action » sont utilisés pour vendre des pompes ou des soutiens-gorge.
Ah, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, la réflexion a démarré avec, parce que tout de même, on a travaillé ensemble avec Frédéric Lollier et Lise Vigier, dès une pièce précédente qui s'appelle « Toute ma vie, j'étais une femme », bon, où elles sont, disons, elles m'ont demandé, de comédiennes que je connaissais, avec lesquelles j'avais beaucoup travaillé déjà, de leur écrire quelque chose sur la société de consommation. Donc aussi, bien sûr, ça concerne la publicité. Et j'ai commencé par dire « oh, quand même, on sait ce que c'est ». Et puis, en fait, en réfléchissant, c'est vraiment venu que c'était, en le prenant d'une certaine façon, vraiment un enjeu absolument essentiel. Et bon, dans Louise, elle est folle, ça continue sur cette question de comment le désir, finalement, de tout un chacun, peut être détourné, aplati, vidé. Parce que c'est de ça aussi dont il est question quand on parle de comment les mots sont détournés, vidés, aplatis.
Mais quand on parle de résistance, et j'en reviens à cette question-là de la potentialité, de la puissance qu'il peut y avoir en face de ce genre d'action, parce que c'est aussi votre sujet, Leslie Caplan, qu'est-ce qu'il y a comme force en face? C'est quand même des gros rouleaux compresseurs. Enfin, je veux dire, on a parfois de quoi se sentir tout petit quand on se dit, mais moi, il me reste quoi comme mot alors si, pour prendre en ce moment une campagne qui me rend dingue sur les culs des autobus de tourisme avec deux femmes en soutien-gorge et il y a marqué c'est la liberté à la française. Il reste quoi, Leslie Caplan? On fait comment alors?
Alors, il y a des méthodes.
On peut un petit tutoriel, un petit tutoriel de la résistance à la grande ère
publicitaire. Non, mais je sais pas, mais tout d'un coup me vient l'image d'un des personnages de mon livre, le psychanalyste Eva, qui décide à un moment donné de, je sais plus. On déchirait des affiches, enfin je ne sais plus, je crois que c'est à cause des autobus que je pense à ça, ou de décrire des slogans contraires, ce que tout le monde fait d'ailleurs, sur des affiches, etc., etc. Ben, tout est bon quand même, bon, tout est bon, et je pense vraiment qu'il faut, bon, voilà, je crois que d'une certaine façon, il faut pas se laisser, on ne peut pas se laisser prendre par la grandeur de ce qui est en face. Toute action est bonne, et toute action peut aussi avoir, disons, une suite, quoi. Peut se développer, s'agrandir, etc. Devenir collective, aller vers autre chose.
Parce que vous dites, une des voies de résistance de cette femme à la fin de Louise et Folle, c'est de parler des ciels. Mais par exemple, si on parle des ciels de Paris ou des ciels des grandes villes, le soir quand vient la nuit, qu'est-ce qui brille?
Oui, c'est...
Je l'ai traversé hier en rentrant de la radio. Qu'est-ce qui brille? La totalité du ciel est pris par des grands slogans, des grands noms d'entreprises. Dans la nuit, il ne reste plus beaucoup de ciel.
C'est vrai, c'est vrai. Mais on va trouver, on va trouver. Bon, on ne peut que dire ça, c'est-à-dire que je crois que à la fois c'est complètement dégoûtant et on est absolument révolté, et en même temps on va trouver comment faire. Je veux dire, on ne peut pas ne pas. Bon.
Il s'agit de la configuration du monde commun et du rapport entre égalité et inégalité dans ce monde commun. Il s'agit aussi de savoir ce qui fait parole. Il s'agit de savoir comment les muets parlent. Et comment les muets parlent, c'est un enjeu politique, quoi. Or effectivement, les muets qui parlent, il y en a deux sortes, quoi. Il y a les muets au sens de les gens qu'on n'entend pas parler, on se rendait pas compte qu'ils parlaient. Emma Bovary, Bouvard et Pécuchet font partie de ces muets. On savait pas que ces gens-là parlaient. On pensait qui grognait, qui gémissait, et ainsi de suite. Or, il parle, bien sûr, comme les ouvriers émancipés à l'époque montrent aussi qu'il parle, quoi. Et puis, il y a une autre forme de la parole muette, qui est la parole qui est inscrite sur les choses elles-mêmes, celle que Balzac, comme ça, va chercher, sur un meuble, sur un habit, au fond, une espèce de vérité des signes. Qui disent l'histoire, une espèce de vérité cachée souterraine de la société.
Dans les temps qui courent, Marie Richeux avec Leslie Kaplan.
Mission impossible repris par Merci Desclous, vous répondez à l'instant, Leslie Kaplan, on ne peut pas ne pas. Comme ça, ça voilà. Met tout le monde en mouvement. Juste avant, c'était Jacques Rancière au micro de Pascal Casanova en 2007 dans les Mardis littéraires. Jacques Rancière qui disait qu'il y a une part du politique qui consiste à entendre comment les muets parlent. Et il me semble que ça fait aussi résonance avec tout ce que vous venez de dire, Leslie Kaplan, et tout ce que vous écrivez, notamment dans votre manière de regarder le présent et d'écouter ce qu'on a beaucoup dit, c'est-à-dire les invisibles apparaissent. Mmh. Les muets parlent, les invisibles apparaissent. Mmh. Mais dire ça, c'est aussi... parler d'une forme d'état du monde, quand même. Dire que jusqu'à maintenant, ils étaient invisibles, mais pour qui ?
Pour ceux qui, tout simplement, étaient, disons, les vainqueurs, comme on dit, de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui avaient le pouvoir, les puissants, bon, évidemment, parce que entre eux, les invisibles se voient tout à fait. Bon, et qu'ils apparaissent quand même sur la scène politique, parce que tout de même, c'est aussi des choses qui se passent, que ce soit, bon, en France, là, il y a tout de même eu une nuit debout, là, il y a le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi des tas de choses qui se passent. espaces, des enseignants, etc. C'est-à-dire, je pense qu'on est dans un moment, d'ailleurs mondial, où c'est particulièrement lourd, autoritaire, pesant, enfin terrible, bon, que ce soit aux États-Unis, je pense aussi au Brésil, etc. Bon. Mais tout de même, en même temps, il y a des tas d'endroits où des choses se manifestent. Oui, des gens font des actions qui les sortent de cet état de, disons, d'être muet, ou d'être silencieux, d'être invisible.
Quand Jacques Rancière dit « il faut entendre comment les muets parlent », vous entendez ça comment ?
Ben, il me semble qu'il veut dire que, ou en tous les cas, moi ce que j'entends, c'est comment on peut exprimer des choses d'une certaine façon, très fortes, et qui vont bien au-delà de ce que, est dit exactement. C'est-à-dire, mais ça on le voit tout le temps, quand dans une grève même, il y a une revendication, peu importe pourquoi, sur quoi, on entend aussi, c'est, en plus de la revendication précise et détaillée du genre on veut une crèche ou on veut la diminution du prix ou de telle chose ou au contraire l'augmentation du salaire, etc., chose très importante à part ça, mais on entend aussi que on parle, nous parlons, nous avons raison de nous révolter, nous avons quelque chose à dire qui concerne l'ensemble de la société, peut-être même l'ensemble du monde, et ça c'est en dessous. C'est-à-dire que n'importe quelle revendication minuscule porte en même temps, justement, une prise de position d'ensemble qui affirme, disons, la dignité, l'humanité et la dignité de la personne qui parle.
Donc c'est peut-être ça, cette part muette, c'est tout.
Ah oui, 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 je crois.
C'est toute la revendication plus large que la revendication elle-même.
Tout à fait, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, et ça on le voit encore une fois dans n'importe quel mouvement de grève ou d'occupation, etc. C'est-à-dire, on veut telle chose, oui, mais ce qu'on veut surtout c'est montrer que, enfin, comme bon, qu'on est là, qu'on parle, qu'on pense, qu'on réfléchit, etc. Bon. Et qu'on existe.
On entend aussi souvent, pour parler de vos livres, la manière dont vous, justement, écoutez le monde et la manière dont le langage oral, la manière dont les gens se parlent, y entre comme si c'était un très grand bienvenu, quoi. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que vos livres semblent être un café chaleureux, quoi. Je parle beaucoup de café. Je vais avoir envie d'aller prendre des cafés. Mais vous voyez ce que je veux dire?
Ça, oui.
On y parle, on y vit, on y est là, pour reprendre vos mots.
Oui.
Est-ce que c'est comme ça que vous concevez l'espace d'un livre publié, Leslie Kaplan?
En tous les cas, ça me fait très plaisir qu'on s'y sente dans un de mes livres, comme dans un café chaleureux. Bon, parce que moi aussi, j'aime beaucoup les cafés. Il y en a d'ailleurs dans un livre qui s'appelle L'épreuve du passeur, le café de Suzanne. Bon, mais à part ça, oui, je crois qu'un endroit où il peut y avoir du dialogue, il peut y avoir de l'écoute, et une parole adressée réellement à quelqu'un, c'est vraiment indispensable. Et c'est vrai que j'aimerais qu'un livre soit quelque chose comme ça.
Alors j'en reviens à ma désolation que les livres se vendent si peu ou que certains livres se vendent si peu. Est-ce que ça vous chagrine, Leslie Kaplan?
Ah bah oui, complètement. Bon, complètement.
Comment on pourrait faire? Tout à l'heure, vous avez fait un petit tutoriel. On peut refaire un petit tutoriel de comment on pourrait faire pour que les livres se vendent en librairie plus?
Écoutez, d'abord, il faut continuer. Il ne faut pas se décourager.
On ne peut pas ne pas.
On ne peut pas ne pas. Et alors ça, vraiment, je crois que dans l'état actuel des choses, je crois que chacun essaye de réfléchir à des formes qui pourraient peut-être être plus directement, disons, attraper plus les lecteurs, le public.
Ah, donc ça se situe du côté des autrices et des auteurs pour
vous. Ben, oui, c'est-à-dire que je pense que c'est important. Je pense à part ça que le travail des libraires, c'est archi important, que vraiment c'est fondamental. Aussi le travail des directeurs de théâtre, par exemple, qui prennent des textes contemporains, etc. Bon, ça. Enfin, je sais pas. Je crois qu'il y a toutes sortes de moyens, mais certainement, ça demande beaucoup d'invention, ça c'est sûr.
La littérature a un rapport assez privilégié avec le matériau criminel, avec les faits divers, les informations portant en particulier sur les crimes ou sur les désastres qui peuvent affliger l'existence humaine. Je pense par exemple à Stendhal, à Dostoïevski, à Robert Musil. Mais on pourrait dire que ce que la littérature essaie de faire dans ce cas-là, c'est de prendre son départ dans une information menue et d'essayer d'étendre le point de vue, d'élargir l'horizon, de recréer, par les moyens qui sont les siens, le panorama plus vaste, les circonstances qui permettraient d'expliquer, de comprendre, de mieux voir, en quelque sorte, de quelle façon tel ou tel acte a pu se produire, de le rendre plus intelligible et plus visible. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que la littérature, à l'égard du fait divers, procède avec une certaine hauteur, comme si elle considérait, pour des raisons qui sont les siennes, le fait divers comme trop rapide, trop partiel, trop menu. Au contraire, il me semble que l'on pourrait faire, en profitant de ce que la radio offre comme capacité de suggestion, c'est garder aux faits divers son caractère fulgurant, instantané. C'est essayer de donner une certaine étendue à cet instant, entrer en quelque sorte dans les replis du temps, essayer de voir que dans une réaction qui ne dure que quelques instants, il peut y avoir tout un monde de pensées et de réactions émotives. Il s'agira donc, dans ces émotions ressenti face aux faits divers, d'essayer de se garder du professionnalisme.
Le mouvement, même si on ne pouvait pas à proprement parler utiliser le terme de mouvement, il n'y avait toujours aucun lien revendiqué entre les différents crimes. Il fallait au moins mettre des guillemets. Le mouvement, donc, s'élargissait. Il s'étendait. Il se diffusait. Comme une flaque. Comme du gaz. Et le mois de mai, ça, il faut le dire, tout le monde s'y attendait, fut explosif. Ce qui se passait, et on mit du temps à s'en rendre compte, fut une sorte d'abstraction grandissante. Les crimes étaient toujours le fait d'individus isolés, mais il semblait dans un rapport moins proche, dans une proximité moins grande, avec les victimes. C'était moins souvent un chef direct, un patron présent sur le lieu de travail ou dans les locaux. Le PDG maintenant, on allait le chercher. Ou alors il s'agissait d'un ministre, qu'on n'avait jamais vu en réalité, d'un député, qu'on ne connaissait pas, du directeur d'un journal ou d'une chaîne de télévision, assis dans leur bureau au fond d'un couloir. Bref, de personnes qu'on n'avait pas tous les jours sous la main, mais qui étaient bel et bien présentes par leur action dans le quotidien. En ce sens, ces crimes nécessitaient certaines connaissances, un travail intellectuel plus poussé, et, oui, comme le nota un remarquable chroniqueur qui suivait les événements depuis le commencement, un niveau d'abstraction plus élevé que les crimes du début. En même temps, l'assassin faisait toujours état d'un grief personnel. Il, ou elle, avait été personnellement atteint par l'action de la victime, même s'il n'était pas le seul à être visé. Le premier cas de ce genre fut celui d'un député qui avait imaginé, et sa proposition avait fait grand bruit, de remettre en cause le calcul des heures supplémentaires sous prétexte de compétitivité et d'incitation à l'embauche pour des entreprises en difficulté. Deux jours plus tard, il fut poussé sous un autobus par un ouvrier fraiseur, pourtant au chômage, et qui aurait peut-être, certains le soulignèrent, pu retrouver du travail si la proposition du député avait été votée. Le fraiseur ne dit qu'une chose, ça suffit la connerie. La phrase était forte, péremptoire. Elle frappa les esprits. D'ailleurs, les esprits furent d'autant plus frappés que le surlendemain, dans un tout autre registre, la journaliste qui tenait le courrier du cœur d'un magazine féminin à grand tirage fut étranglée avec un lacet de bottine par une lectrice. Celle-ci ne dit qu'une phrase, et c'était la même. Ça suffit la connerie.
Moi, je le lis encore et encore, et en fait, ça me fait toujours rire, Leslie Caplan, ce passage de votre texte Désordre que vient de lire Romain de Bec de Lièvre, où d'un seul coup, une sorte de slogan commun se met en place de crime en crime. Ce slogan, vous l'avez trouvé comment? Est-ce que vous vous en souvenez, vous qui n'avez commis aucun crime?
Mais en fait, il est venu comme ça. Je crois vraiment, en écrivant, bon, c'est vraiment, il est arrivé, je ne l'ai pas cherché, il est arrivé.
Ça suffit la connerie, c'est aussi un slogan qui laisse tout le monde pantois et qui clôt les commentaires. Et une partie de votre texte, Désordre, s'intéresse aussi à ce qu'on produit comme analyse, comme commentaire, comme essai, comme ce qu'on est aussi en train de faire, comme parole radiophonique, sur des actes qu'on n'est pas toujours en mesure de... penser, de comprendre. Et là, d'un seul coup, j'ai l'impression que ça suffit la connerie, c'est aussi pour que d'autres se taisent.
Mais absolument, je crois que c'est en fait une sorte de phrase extrêmement politique, même si justement dans le livre, des commentateurs se demandent si elle est politique ou pas politique. Mais elle est exactement en train de dire, vous avez tout à fait raison de dire, bon, c'est évident ce que nous disons ou ce que nous faisons ou ce que nous visons et ça suffit.
Il y a une fin qui s'attaque très clairement à votre question du début, à savoir la violence, puisque, je ne dévoile rien, le plaisir n'est pas entaché, mais le chef est guillotiné. Et après sa mort, la guillotine est abolie.
Oui.
Est-ce à dire que, selon vous, l'emploi de la violence ne risque pas d'en entraîner davantage?
Écoutez, là, je crois que la fin du livre, elle est vraiment, ouverte, même si, en effet, il y a un coup de guillotine, ce qui ferme en tous les cas pour une personne l'avenir. Mais elle se veut un peu ouverte. Je crois que la violence, ce qui était important, c'est vraiment de marquer d'où elle venait et comment on pouvait, comment, certes. Enfin, alors c'est la fiction, comment elle était retournée. Je crois qu'elle ne va pas, il n'y a pas plus là-dedans. Tout simplement parce que oui, la violence engendre la violence, mais d'où vient la violence, etc. Bon, là, vraiment, non.
Il faut continuer d'y penser. Merci beaucoup, Leslie Caplan. Désordre, c'est ce texte dont on a parlé qui est publié aux éditions POL. Toujours aux éditions POL, Louise, elle est folle, suivie de Renversement. Merci à vous.
Enfonce le clou.
À la prise de son, c'était Emmanuel Couturier. Ce soir, à la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Valentin Rémy et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Sur franceculture.fr, à la page de Parler de temps qui court, la référence des archives, des musiques et des textes. Un endroit pour s'abonner au podcast. Et on vous dit demain, même heure, même station, mêmes oreilles, oreilles différentes. Très belle soirée sur France Culture.
Enfonce, je crois.